Bienvenue à toutes et tous sur Startup Job Story, le podcast qui décrypte les métiers en startup. Proposé par la Fresh Tech in the Alps, le collectif des startups alpines, il invite à découvrir les métiers de demain à travers le regard de celles et ceux qui les exercent aujourd'hui. C'est Mathilde qui se charge d'interviewer notre invité. Allez, c'est parti!
Bonjour, je suis Mathilde Gandon. Je travaille pour la French Tech in the Alps Grenoble et aujourd'hui je suis accompagnée de Margot Belair. Bonjour Margot.
Bonjour.
Alors Margot, tu occupes le poste de CMO. Donc on va revenir sur ce que ça signifie. Mais avant, je voudrais savoir quel est l'objet que tu nous as ramené.
Alors, j'ai pas l'habitude de ramener un objet fétiche, j'en ai pas forcément. L'objet que j'ai toujours sur moi, mais vraiment toujours, c'est mon ordinateur. Ça paraît un peu bateau comme ça, mais en fait, ça représente vraiment bien ma vie un peu aujourd'hui, parce que je l'ai tout le temps et je passe beaucoup d'une activité à l'autre. Et l'avantage, c'est que ça soit dans le train, dans un bureau, dans un café, au travail, peu importe où je suis, ça me permet de faire le lien avec tout et d'être tout le temps opérationnel. Et c'est aussi parce que j'ai une situation particulière qui m'amène à être pas mal nomade dans mon travail. Et du coup, bah, dès que j'ai du temps, je peux bosser et voilà.
Depuis n'importe quel endroit, digital nomade.
Ouais, alors j'essaye quand même d'aller au bureau régulièrement, mais oui, je bosse beaucoup à distance, donc l'objet qui fait vraiment le lien entre mon travail et tout le reste, c'est toujours le même. Et c'est mon petit ordinateur que j'aime bien, il y a tout dessus. Parce que j'ai aucun carnet, j'ai pas de stylo forcément sur moi.
Voilà, on n'écrit plus maintenant.
Moi, j'écris très peu. J'écris, mais sur l'ordinateur. Du coup, j'ai aucun carnet, par exemple, avec moi. Tout est organisé sur mon ordinateur. Et sur, du coup, en lien aussi avec mon téléphone. Donc, je suis pas quelqu'un qui est très attaché au numérique, mais finalement, je le suis de fait, puisque tout ce que je gère est sur mon ordinateur.
Tout passe par ça. OK. Et alors, Margot, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ?
J'ai dû vouloir faire plein de métiers différents. Le plus ancré dont je me souviens, c'est vraiment médecin. Je voulais, pendant toutes mes années au collège, je voulais être médecin. J'ai fait beaucoup de sciences pour être médecin. Et j'ai été très rapidement rattrapée au lycée par la réalité que j'étais pas bonne en sciences, ou pas assez en tout cas. Et du coup, je me suis arrêtée. J'ai arrêté de rêver au milieu hospitalier tel qu'on l'imaginait, tel que moi je l'imaginais quand j'étais enfant, à ce moment-là. Mais je voulais être médecin et plus particulièrement pédiatre, voilà, pendant très longtemps.
Et du coup, tu t'es plutôt orientée vers une autre voie, puisqu'aujourd'hui, tu es CMO. Alors CMO, c'est trois lettres, CMO en anglais, ça veut dire Chief Marketing Officer. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors c'est un grand mot, mais nous, on est une petite start-up, la start-up dans laquelle je travaille, qui s'appelle Sinao. On est quelques-uns. En gros, je m'occupe du marketing et de la communication. Et du coup, voilà, c'est un des termes qu'on emploie pour définir ce travail-là. Mais il faut savoir que dans les startups, en tout cas dans celle dans laquelle je suis, les postes, ils évoluent aussi beaucoup au fil de la vie de la startup. Et du coup, mon travail qui pouvait ressembler à quelque chose il y a 2 ans, il ressemble plus du tout aujourd'hui à la même chose. Donc, c'est un terme un peu générique qui englobe le fait que je m'occupe du marketing chez Sinao aujourd'hui où je travaille.
Oui, c'est un terme générique qu'on retrouve dans pas mal de startups. Si on devait le traduire en français, ça donnerait directrice du marketing.
Voilà, alors en fait, il y a des startups qui l'utilisent vraiment pour dire qu'ils sont directeurs, directrices, et du coup qu'ils ont en responsabilité des équipes. Moi, je n'ai pas en responsabilité d'équipe, puisqu'on est une petite structure.
Vous êtes combien ?
Là, actuellement, on est 4. Et du coup, et demain, peut-être qu'on sera plus nombreux avec l'évolution. Le terme restera peut-être le même, on verra s'il évolue. Mais il y a des startups qui l'utilisent pour parler de direction, il y en a d'autres qui l'utilisent plutôt pour parler de responsabilité. Et du coup, en fait, ça dépend vraiment de l'état d'avancement de la startup. C'est-à-dire que c'est sûr que dans les grosses Je ne sais même d'ailleurs si on peut appeler encore ça des startups aujourd'hui, mais les grosses structures qui vont avoir des vingtaines, trentaines de personnes sur du marketing. Bien sûr, il y a un directeur, mais il y a aussi un responsable, puis il y a un responsable d'une branche, puis d'une autre branche, puis d'une troisième branche. En fait, les métiers se divisent au fur et à mesure qu'une startup évolue. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et du coup, là, aujourd'hui, voilà, c'est... ça correspond plus à juste gérer le marketing.
Être en responsabilité de...
Mais en même temps, on est quatre, donc chacun a une tâche définie. Et puis, on se croise sur des projets communs.
D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment dépendant du contexte, de la maturité aussi de l'entreprise. Et les trois autres profils ?
Alors, les trois autres profils, on a un CEO, donc Quentin, et un CTO qui s'occupe de toute la partie technique. Et récemment, on a recruté une personne qui s'appelle Sophie, qui vient d'arriver sur la partie commerciale et relations clients et partenariats. Donc, je travaille beaucoup avec Sophie maintenant, puisqu'on a des sujets qui se regroupent, en tout cas plus que moi, avec, par exemple, la partie plus technique, développement du produit.
Et alors, donc, tu travailles pour Sinao. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites ?
Ouais, Sinao, c'est un logiciel de gestion pour les entrepreneurs. Ça permet aux entrepreneurs de faciliter leur façon de faire leurs factures, de faire leurs devis. Je vulgarise un peu, mais l'idée, c'est vraiment que les entrepreneurs, ils gagnent du temps, qu'ils aient tout à peu près au même endroit. Donc, ils voient leurs finances évoluer jour après jour. Ils peuvent envoyer leurs factures à leurs clients. Ils peuvent faire leur rapprochement bancaire. C'est tout ce qui se passe avant vraiment la partie très, très comptable que va effectuer un expert comptable. Bah, Sinao, il le fait et il permet aux entrepreneurs de s'organiser. Beaucoup plus facilement que si il le faisait à la main ou via des tableurs Excel, par exemple, ce qui est un peu l'objet classique qu'on va retrouver avant de s'équiper de ce genre d'outils. Et c'est un petit outil en ligne avec différentes formules d'abonnement mensuel et qui aujourd'hui trouve son public chez principalement des entrepreneurs individuels ou des TPE-PME.
Parce que quand tu es arrivé dans cette entreprise, vous étiez, j'imagine, peut-être encore moins nombreux qu'aujourd'hui. Donc ton rôle, il a consisté à quoi au début ?
Quand je suis arrivée, on était un plus moi.
Donc, et t'es arrivée directement sur ce poste-là que tu occupes
ouais,
toujours aujourd'hui ?
Tout à fait. Je suis arrivée il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Et donc, l'entreprise avait une vie avant. Hein. C'est plus vieux que mon arrivée, en tout cas, à Sinao. Et à ce moment-là, Quentin, donc, qui était CEO et qui était tout seul à ce moment-là, a cherché à structurer la partie marketing. Et du coup, moi, je suis arrivée dans cette phase de structuration. Donc, on a mis en place des leviers d'acquisition de clients, tout simplement, de manière, si possible, automatisée. Et ça, je l'ai fait toute seule. Alors, on a eu quelques personnes qui sont passées pour aider de temps en temps. On a eu quelques stagiaires à des moments qui sont passés. Mais jusqu'à maintenant, ouais, j'étais toute seule sur la partie marketing. Et après, on a recruté d'autres gens petit à petit.
Donc, en fait, quand tu es arrivée, il y avait déjà le produit qui existait.
Ouais.
En tout cas, l'outil était déjà fonctionnel. Et toi, ton rôle a consisté à faire connaître la solution. Trouver des clients, comment on s'y prend, enfin, qu'est-ce qui se passe concrètement, ton métier, c'est à quoi ça ressemble, quoi ?
Bah, mon métier, en fait, c'est de trouver des clients. Donc, je ne m'occupe pas du produit, même si on est une petite équipe, donc on échange toujours un peu tous ensemble. Mais à partir de ce produit-là, oui, mon travail, c'est d'aller chercher des gens et de trouver le bon moment où ces gens ont besoin de ce produit-là. Typiquement, moi pour ça, j'ai un peu étudié le marché. On avait fait pas mal de tests et en fait, on a cherché pendant plusieurs années à trouver, ben voilà, quel était le bon moment et quel était le bon message à adresser à la bonne personne. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, quand il crée son entreprise, bah, il y en a, ils vont vouloir tout de suite vouloir structurer, avoir un logiciel. Donc là, il faut qu'on arrive à les capter à ce moment-là et à leur dire, bah, voilà, nous, on a un super logiciel pour vous. Et il y en a d'autres qui vont avoir besoin de temps. Donc, on va les capter un peu plus tard. Et du coup, mon travail dans le concret, donc, c'est quand même beaucoup de web marketing. Je ne fais pas de marketing papier ou publicitaire. Je travaille très peu avec des journalistes dans ce sens-là. L'idée, c'est vraiment de trouver des canaux en ligne qui permettent de proposer Sinao au bon moment pour les bonnes personnes. On a testé plein de choses et à chaque fois, en fait, on teste des choses, on met un peu de budget dessus, on voit si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on arrête, on teste autre chose. Et comme ça, en plusieurs mois, on a pu affiner un petit peu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et après, bah, dans les grandes mailles, pour être très concrète, ça va être de la publicité via des moteurs de recherche comme Google, ce qu'on appelle du SEA. Ça va être de la publicité via les réseaux sociaux. Ça va être de l'achat de leads, parce qu'il y a des sites qui récupèrent des adresses, des contacts, et nous, on va les recontacter derrière. Ça peut être du phoning, donc de passer des coups de téléphone à des gens qui viennent de créer leur entreprise, par exemple. Qu'on a testé plein de choses comme ça. Et petit à petit, on formalise une stratégie un peu globale sur de l'acquisition de ce qu'on appelle des leads, donc des futurs clients.
Des futurs clients. Et alors, en fait, en t'écoutant, il y a un lien qui est assez fort avec le métier de business developer.
Oui.
Business developer dans le sens, pardon, dans le sens... d'aller chercher des clients de responsables commerciaux, quoi. Enfin...
Oui, mais alors moi, je ne suis pas commerciale. Donc, je ne sais pas faire d'aller voir quelqu'un et de lui dire en face à face, alors voilà, je vais t'expliquer pourquoi mon produit, c'est le meilleur du marché et pourquoi il faut que tu l'achètes. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que récemment, on a recruté Sophie qui, elle, a travaillé dans ces milieux-là et en capacité, en tout cas, je pense, beaucoup mieux que moi de faire ce genre de démarche et d'aller discuter avec les clients. Moi, je vais chercher de la masse, du volume. Je ne vais pas aller m'adresser aux gens un par un. Je vais faire des actions qui vont permettre d'amener beaucoup de gens sur notre site, notamment, puisque c'est un peu notre première vitrine. Et à partir de ça, bah, ces gens-là, ils vont se convaincre, à partir des arguments qu'on leur donne sur le site, d'acheter Sinao ou pas, ou tout simplement de l'essayer, en tout cas. Et du coup, on ne va pas chercher les gens un par un. Par contre, derrière, quand les gens sont là, et là, c'est plus le travail actuel de Sophie, c'est de dialoguer avec eux, d'échanger avec eux et de faire un peu ce qu'on appelle du développement aussi commercial sur ce sujet-là. Donc, c'est... Moi, je suis vraiment sur la partie web marketing, communication. Et c'est, pour moi, je distingue bien quand même le marketing du commerce. C'est quand même deux métiers un peu à part entière. Surtout maintenant, le marketing sur Internet en dématérialisé. Il faut aussi savoir faire un peu d'analyse data. Il faut savoir un peu brasser du volume et de la donnée et de les lire et de pouvoir les analyser. Et ce n'est pas uniquement discuter... juste d'aller en one-to-one avec quelqu'un, ça c'est un autre travail que je trouve très impressionnant, mais j'en suis pas tout à fait capable aujourd'hui, je pense.
Et du coup, tu testes des choses. Comment est-ce que ça fonctionne? Tu imagines des procédés pour faire connaître l'outil ou est-ce que tu t'inspires de procédés déjà existants que tu as étudiés par ailleurs?
Il y a le processus le plus classique qu'on pourrait voir là-dedans, c'est on fait de la veille. Tout le monde doit faire de la veille, c'est hyper important, la veille, faites de la veille. On fait de la veille et on voit des choses passer. Il y a des gens qui disent dans le marketing, waouh, le truc du moment, c'est la publicité sur YouTube. Ou par exemple, prenons un truc actuel, le truc du moment, c'est la publicité sur TikTok. Donc, il faut faire de la publicité sur TikTok, tout le monde doit faire de la publicité sur TikTok. La publicité, alors nous, on n'en fait pas, hein, parce que ce n'est pas notre public, TikTok, mais quand bien même, on voudrait en faire, ça coûte un certain budget. Donc, on va se dire, on va essayer ce canal-là. On va prendre 5 000 euros, on va se dire, on va mettre 5 000 euros en publicité sur TikTok. On va le faire pendant un mois ou deux. Et ensuite, on va s'assurer que tous les gens qu'on va récupérer via ce canal-là, on va bien les suivre et on va bien se rendre compte de si à la fin, ils deviennent clients. Ensuite, on va voir le budget qu'on a mis au début, voir le nombre de clients qu'on a eu à la fin par ce canal-là, TikTok, donc, par exemple. Hein. Et en fait, on va pouvoir en déduire un coût par client. Et ce coût par client, on sait, nous, par rapport à nos projections et par rapport à nos stratégies, s'il est bien ou pas. Et s'il n'est pas bien, on arrête. parce que peut-être c'est trop cher et qu'en fait, finalement, ce canal ne nous ramène pas assez de clients. Et s'il est bien, bah, on le garde et on le pérennise. Et pour le pérenniser, bah, soit on met plus de budget, soit on continue à répéter un budget, soit on réduit le budget, mais on le met sur plus longtemps et on choisit comme ça. Et donc, on fait ça. Et en fait, au bout d'un moment, on trouve des choses qui marchent, on trouve des choses qui ne marchent pas. Et les choses qui marchent, on les garde. Et les choses qui ne marchent pas, on les...
Il y a une casquette, vraiment, se analyser tout l'impact de ce que peut... Enfin, analyser l'impact d'une action et pouvoir en déduire quelle va être la meilleure stratégie pour l'entreprise.
Ouais, et c'est pour ça que c'est hyper important de bien tracer, ce qu'on appelle faire du tracking de tous les utilisateurs, d'où ils viennent et comment ils sont arrivés là. Et à ce moment-là, ça nous permet, nous, d'en tirer des conclusions. Mais oui, c'est super important de vraiment bien suivre le parcours client. Et en fait, c'est pas simple. C'est un vrai volet. Même nous, aujourd'hui, il y a des choses qu'on... Il y a des canaux ou des choses qu'on a du mal à suivre. Et on a des fois des interruptions dans notre parcours de client sur lesquelles on travaille régulièrement pour se dire, alors quel outil on va mettre en place pour mieux arriver à suivre ça. Et c'est aussi pour ça que dans des startups qui ont plus de moyens, en tout cas qui sont peut-être un petit peu plus avancés, il va y avoir des gens qui sont chargés du trafic, des traffic managers ou des gens qui sont analystes.
Traffic manager, ce serait...
C'est des gens qui sont en capacité de suivre, par exemple, le trafic d'un site et de l'analyser et de le canaliser et de suivre un petit peu ce qui se passe. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des data analysts. C'est des gens qui vont analyser toutes ces données-là et qui vont en tirer des conclusions, qui vont dire, y a 100 personnes qui arrivent depuis Facebook, que ces gens-là, ils ont tel comportement un mois plus tard sur le soft, je peux en tirer une conclusion. A contrario, si je n'ai pas les mêmes comportements des gens qui viennent de YouTube, je peux en tirer aussi d'autres conclusions. Et cette analyse de données, elle se fait sur du volume. Elle est souvent, la plupart du temps, c'est anonyme, mais au moins, ça permet d'en tirer des comportements et du coup, après, d'analyser, de réajuster nos stratégies par rapport à ces comportements-là. Donc, c'est quand même un petit volet aussi du milieu. Aujourd'hui, il faut aimer quand même un petit peu les stats pour faire du web marketing. Sinon, il faut aller bosser dans les grands groupes qui font du marketing papier. Et encore, quoique maintenant, ils suivent aussi le nombre d'ouvertures de courriers, ce genre de choses. Donc, en fait, tout le monde maintenant analyse des données pour ajuster ses stratégies.
Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier ?
Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est le fait que ça change tout le temps. J'aime bien quand ça bouge. Moi, j'ai du mal à rester... Je pourrais difficilement être au même poste pendant plus de 2, 3, 4 ans. Enfin, je m'imagine pas ça. Et du coup, là, ce qui est bien, c'est que le métier que je fais aujourd'hui ressemblait pas à celui que je faisais il y a 6 mois. Il ressemblait pas à celui que je faisais il y a un an et même pas du tout à celui que je faisais au tout début de quand je suis arrivée chez Sinao. Donc, l'évolution d'une start-up, pour les gens qui aiment bien... que changer de métier régulièrement, c'est chouette. C'est un stimulant parce que du coup, on est obligé de se former, d'être toujours un peu à jour. Mais par contre, moi, j'aurais du mal à rester au même poste pendant très longtemps. Et du coup, je sens que mon poste, il bouge petit à petit. Et je trouve ça chouette. Il y a des gens pour qui ça serait difficile. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de stabilité et qui ont envie d'approfondir vraiment un moment de leur poste pendant très longtemps et c'est chouette aussi, hein. C'est vraiment, ça dépend complètement des caractères, mais moi je crois que j'y arriverai pas. donc voilà, je suis bien contente que ça bouge un peu.
Oui, parce que du coup, ça fait combien de temps là que tu occupes, que t'es arrivée chez Sinao?
Ça fait 2 ans, c'est ça, hein. Ouais, ça doit faire un peu plus de 2 ans maintenant.
Et t'as vu ton métier évoluer?
Ouais.
En fonction des stades d'avancement de la start-up, des aléas de la vie de la start-up?
J'ai vu mon métier évoluer sur 2 volets, à la fois sur la partie marketing où ça a évolué parce que la start-up a évolué et que on fait plus de l'acquisition comme on la faisait avant, mais aussi parce que le milieu du web marketing, il évolue. C'est-à-dire qu'on fait plus du web marketing comme on le faisait il y a 2 ans. Et en fait, les outils aujourd'hui numériques, ils changent tout le temps. Donc, si, euh, si on ne se met pas un peu à jour, finalement, on fait un truc qui est complètement dépassé, 6 mois plus tard que les autres qui, eux, ont déjà... Donc, y a quand même, il faut quand même se mettre à jour régulièrement. Et en même temps, j'aurais tendance à dire, mais... Que c'est un peu des vagues. Il y a des périodes où le métier bouge beaucoup et il y a des périodes où tout le monde converge vers la même chose. C'est-à-dire que là, moi, je sens que des fois, un peu dans le web marketing, tout le monde est en train d'un peu converger vers les mêmes idées et se dire que en fait, c'est un peu... On a trouvé ce qui marchait, ça marche. Du coup, il y a peut-être un petit peu moins de folie que ce qu'il pouvait y avoir il y a quelques années, où là, tout le monde trouvait des trucs un peu révolutionnaires et ça marchait. Les fameux hacks, les choses dont on a parlé il y a quelques temps. En vrai, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de hack qui permettent de faire booster une entreprise juste par un seul objet, ouais, un seul levier. Là, aujourd'hui, tous les marketeurs, ils vont dire, on fait tous un peu des choses différentes, mais variées. Et en fait, c'est l'ensemble de tout ça qui amène à ce qu'une stratégie fonctionne. Et après, mon métier, il a aussi évolué parce que l'entreprise en tant que telle évolue, parce qu'on fait rentrer des nouvelles personnes à bord, parce qu'on change de locaux, parce qu'il y a le Covid en plein milieu qui nous rend du coup en télétravail beaucoup plus nomades que ce qu'on était avant. Parce que moi, j'ai aussi d'autres activités qui sont arrivées dans ma vie et qui ont fait que je suis aussi passée encore plus en mode nomade. Et voilà. Mais du coup, en fait, l'ensemble fait que ça bouge tout le temps et c'est chouette. Moi, j'aime bien quand ça bouge.
Donc, il faut toujours se tenir informé des évolutions, être curieux, en fait, de se maintenir à jour, quoi.
Ah oui, clairement. Enfin, si on veut réussir là-dedans, il faut être curieux de ce qui se passe dans le métier. Et il faut être curieux et critique, parce que c'est quand même un métier... ça n'a pas très bonne réputation, le marketing. Qu'on se le dise, hein, ça fait partie des métiers où les gens soit ne comprennent pas trop ce qu'on fait, soit considèrent qu'on brasse du vent. Voilà. Mais du coup, il faut aussi être critique sur sa capacité à générer des clients et des fois prendre un peu de recul et se dire « Alors, là, je suis juste en train de brasser du vent, donc il faut que j'arrête, il faut que je trouve un truc un peu plus concret à mettre en œuvre parce que... » Parce que l'idée, c'est pas non plus de s'occuper à rien faire. Ça sert à rien. Mais dans le marketing, des fois, moi, ça m'arrive de lire des revues spécialisées, des trucs comme ça. Des fois, j'ai quand même l'impression que les gens, ils s'inventent quand même un peu des choses miracles, des choses magnifiques et tout.
En vrai, comme quoi, par exemple?
Des fois, ils utilisent des méthodes où on se dit... En fait, c'est quelque chose qu'on fait depuis 15 ans, 20 ans. C'est pas révolutionnaire, quoi. Ils ont mis un nouveau nom dessus et le vendent comme étant la méthode révolutionnaire. Donc, il faut être un peu autocritique et se dire, non, mais en fait, on sait aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus et c'est important aussi de se le dire. Et je pense que s'il y a des étudiants qui écoutent, ils le savent. En fait, on sait aujourd'hui quel est le comportement d'un consommateur et d'un client et d'un lead. Donc, en fait, ce comportement, il change pas tant que ça. Il y a des manières de faire qui changent, mais les gens, ils ne changent pas forcément de cerveau. Donc, ils sont tout le temps un petit peu à faire la même chose, malgré le fait qu'avant, ils le faisaient dans une rue marchande. Et peut-être, il y en a de plus en plus aujourd'hui qui le font sur Internet. Mais en fait, ils achètent à peu près toujours de la même manière, sur à peu près toujours les mêmes arguments. Et ce n'est pas toujours la peine de réinventer la poudre à chaque fois qu'on essaye de sortir une nouvelle théorie. Mais du coup, quand on est un petit peu critique là-dessus, ça permet de juste se concentrer sur les choses qui fonctionnent bien et pas de trop se disperser vers des choses soi-disant nouvelles, mais qui en fait ne sont pas si nouvelles que ça.
Et alors, comment est-ce que tu... Quel a été ton parcours pour arriver à ce métier ?
Alors, j'ai un parcours qui est un peu compliqué. Parce que du coup, moi, je me suis un peu plantée au lycée quand j'étais ado. J'ai fini ma terminale avec un bac S à l'arrache complet. J'avais 3 de moyenne en maths. Enfin, c'était ridicule. Enfin, j'étais un peu c'était pas du décrochage, mais j'en étais vraiment pas loin, quoi. Les derniers trimestres, je bossais plus. Et voilà, j'ai eu mon bac à 10, râle et pâquerette. Ouais, je l'ai eu déjà, c'était cool. Mais du coup, je n'ai pu rentrer nulle part là où normalement j'aurais dû aller. C'est-à-dire que en fait, j'étais pas du tout scientifique ou j'étais pas du tout dédiée à aller à l'université, faire des grosses rédactions et faire du travail intellectuel de fond. Et en fait, il n'y avait aucune place en BTS, il n'y avait aucune place en DUT. C'est toujours le cas aujourd'hui.
Quand tu dis qu'il n'y avait aucune place, tu visais quoi comme type d'études ?
Bah, moi, je visais des études techniques type DUT, BTS. Mais en fait, force est de constater que c'est les meilleurs qui prennent ces places-là et que finalement, quand tu as un bac général qui est un peu faible, bah, tu te retrouves un peu relayé derrière tout le monde et il ne te reste plus qu'une seule option. C'est la fac. Et la fac, c'est pas du tout fait pour les élèves soit qui sont plus manuels ou techniques, c'est fait pour des gens qui ont le cerveau bien fait, fait en tout cas à la fac. Et donc, je suis allée faire 2 ans et demi de physique à la fac. J'ai quand même une première année de physique validée. C'est extrêmement compliqué, la physique à la fac. Enfin, c'est vraiment de la physique avancée, quoi. Et même en termes de mathématiques, de biologie et tout, c'est un certain niveau que j'ai essayé de suivre pendant 2 ans. Et puis après, j'ai dit stop, faut arrêter, parce que là, j'allais redoubler ma 2e année. Enfin, ça allait pas. Et du coup, j'ai fait un stage en com, parce qu'à ce moment-là, je gérais une asso et je faisais de la com dans une asso. Donc, j'ai fait un petit stage en com et j'ai réussi à rentrer sur une réorientation dans un IUT qui s'appelle Métier du multimédia et de l'Internet à Grenoble, mais il y en a partout en France. J'ai fait mes 2 ans où là, j'ai fait un super DUT. Je crois que j'ai eu 16 de moyenne à la fin. Enfin, du coup, ça me convenait, quoi. J'étais bien à ma place. J'ai fait une licence d'information communication, un truc très classique derrière pour faire la jonction entre l'IUT et le master. Et ensuite, je suis rentrée en master à Sciences Po, à Grenoble, sur un master de communication politique et institutionnelle, qui était un master où, en gros, c'était très orienté communication politique, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais en fait, on avait 4 mois de cours, 6 mois de stage, 4 mois de cours, 6 mois de stage, donc sur les 2 ans, ce qui faisait 12 mois de stage en 2 ans. Et en fait, il s'est avéré que dans mes stages, moi, je suis allée bosser chez mademoiselle.com en marketing à la régie publicitaire, enfin en publicité. Voilà. Et du coup, après, petit à petit, j'ai bossé en agence et je suis arrivée chez Sinon. Voilà. Mais du coup, je suis partie de la physique pour arriver à Sciences Po, du coup, et à de la pub derrière. Mais donc, comme quoi, tout est possible.
Ouais, conclusion, il n'y a pas de voie spécifique.
Non. Enfin, moi, en tout cas, j'imagine qu'il y a plein de voies spécifiques aujourd'hui. Mais moi, à l'époque, j'ai pas pris de parcours marketing. Après, j'ai un parcours de com. Donc, je sais me débrouiller en communication, j'ai les bases en communication. Et finalement, le marketing et la communication, c'est pas si éloigné que ça. C'est juste que quand j'ai bossé en régie commerciale, régie publicitaire derrière, j'étais à l'époque justement traffic manager. Et en fait, je me suis auto-formée sur tous les outils du web marketing. Donc, notamment les outils de Google. Tous les outils de suivi de Google et toute la suite Google Marketing, qui est quand même un peu indispensable aujourd'hui pour faire du web marketing.
C'est là finalement où tu as mis le pied dans le côté data, analyse et mêler stats dont tu parlais tout à l'heure.
Ouais.
Et ça t'a mis le pied à l'étrier du marketing.
C'est ça.
L'expérience, quoi.
Ouais, ça, plus le fait que j'avais... Donc après, c'était une régie publicitaire, donc on vendait des opérations publicitaires. Donc il y avait aussi le côté un peu commercial dedans. Et puis plus le fait que j'avais la com derrière et que finalement, ce n'est pas des métiers si éloignés. La grosse différence entre du marketing et de la com, c'est souvent les objectifs à la fin, quoi. Marketing, on cherche à vendre une marque, un produit et on cherche à le vendre. La communication, on cherche à proposer quelque chose, mais ça va être à travers d'autres... Enfin, c'est moins orienté vente et objectif de résultat.
Et occuper une fonction de CMO, ou en tout cas dans le marketing, dans le web marketing, en start-up, c'est quelque chose de différent que dans une autre entreprise plus traditionnelle.
Je sais pas trop parce que j'ai jamais bossé dans une entreprise plus traditionnelle. Le seul truc un peu tradi que j'ai fait, c'était une agence de com où je faisais du marketing. Mais c'était une petite agence, donc en fait, j'étais toute seule sur mon poste. Donc en fait, voilà. Je pense que la grosse différence, c'est que quand t'es dans une petite boîte, mais même en fait pas forcément qu'une start-up. En fait, à partir du moment où tu es en responsabilité de toute une branche de l'entreprise à toi tout seul, bah, le métier il change complètement. Et c'est pas du tout la même chose que de bosser. Enfin, moi, je suis rentrée chez Sinao, aujourd'hui j'ai 29 ans, mais je devais en avoir quoi, 27, 26, un truc comme ça quand j'ai 27 ans. Je pense que si j'étais rentrée à 27 ans dans une grosse boîte pour faire du marketing, je me serais retrouvée en monotâche, un peu sous des strates d'équipe ou noyée dans une équipe. Mais j'aurais jamais touché à autant de trucs qu'aujourd'hui où je touche vraiment à tout. En fait, j'ai pu faire plein de choses et apprendre aussi beaucoup de choses. Parce que des fois, dans les grosses boîtes, on va t'apprendre la branche dans laquelle tu te situes. Mais pas forcément. Toi, tu vas pas forcément apprendre tout seul plein de nouvelles choses. Donc, c'est vraiment ça, à mon avis, la différence entre les deux. Après, moi, j'ai des copines qui ont fait des masters, le même master que moi, qui ont fait du marketing aussi derrière, qui sont allées dans des grosses, grosses boîtes, notamment dans des grands groupes à Paris, et elles s'y retrouvent totalement parce que du coup, elles ont un autre volet que moi, je n'ai pas. C'est déjà d'avoir des équipes hyper structurées et un management très, très structuré et qui permet d'avoir une efficacité qui est folle, quoi. Tu lances un dossier, deux semaines plus tard, c'est fini. Et surtout d'avoir des stratégies qui sont ultra développées, pensées par des gens qui ont fait du marketing depuis 30 ans, voire plus. Et du coup, en termes d'apprentissage, c'est aussi chouette. Et voir carrément, bah, moi j'ai des copines qui bossent dans des grands groupes qui sont connus de toutes et tous. Et en fait, il y a aussi le côté faire du marketing pour, je ne sais pas moi, une boîte de cosmétiques hyper connue. Forcément, la stratégie, elle déroule beaucoup plus facilement. Et les enjeux, ce n'est pas les mêmes. Voilà. Mais vraiment, chacun s'y retrouve en fonction de son caractère. Moi, j'aurais du mal, mais je connais des gens qui s'y plaisent beaucoup et qui, au contraire, adorent ça. Donc, ça dépend.
On dit que travailler en start-up, la start-up, c'est un accélérateur d'expérience. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Oui, c'était ce que j'étais en train d'essayer d'expliquer. C'est que, en fait, quand on sort des études à 25, alors pour les plus jeunes, ceux qui ont fait, moi, je connais très peu de gens qui ont fait des études sans, entre guillemets, écart ou redoublement, ce genre de choses. Mais admettons que ton parcours d'études soit complètement linéaire, tu sors des études, tu as un master à 23 ans, quoi. Et en fait, 23 ans, moi, je connais aucune grande boîte qui donnerait autant de responsabilités que certaines startups peuvent filer à des jeunes qui arrivent, qui leur dit, en fait, tu vas être en charge de tout ça, débrouille-toi. Donc, ça peut faire vraiment peur à plein de gens, mais il y a des gens qui vont saisir le truc et qui vont se dire, OK, c'est un accélérateur, comme tu dis, de carrière, parce qu'en fait, c'est des dossiers que j'aurais jamais eu en main si j'étais allée dans des grands groupes. Pour autant, ça peut foirer. On peut aussi se planter plus facilement. Et puis, on n'a pas les gens autour qui sont là pour rectifier un peu le tir. Et en plus de ça, on peut aussi se sentir un peu seul. Enfin, moi, je connais des gens dans d'autres boîtes qui sont tout seuls au marketing et pour qui ce n'est pas toujours évident d'avoir des nouvelles idées, d'avoir des nouveaux projets, des nouvelles envies et voilà. Et du coup, il y a des réseaux de gens, des réseaux professionnels comme il y en a dans toutes les professions qui aident un peu à ça. Mais c'est vrai qu'il faut avoir envie aussi de bosser tout seul et de faire ses expériences tout seul aussi parce que des fois, on est un peu tout seul devant son ordi. C'est pour ça que je parlais de l'ordinateur au début. Mais parce que des fois, tu es tout seul devant ton ordi et il faut que tu trouves la solution. Et il n'y a pas grand monde. Enfin, voilà, nous, on est quatre et je suis la seule à faire du marketing. Donc, en fait, il faut que aussi ça vienne de moi, les solutions.
Tu as dû vivre des moments de solitude, en tout cas. En t'écoutant, ça a l'air d'être le cas parfois.
Non, pas des moments de solitude, mais des moments où tu arrives au bout d'un truc et tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je pourrais inventer de nouveau là ? Et je pense qu'en équipe, ça arrive moins parce qu'on fait des réunions, on fait des grands brainstorms, on se dit, alors, on pourrait faire ci, ça et tout, tirer telle ficelle. Ce qui est bien, c'est que chez Sinao, quand il y a ces moments-là, on se remet en équipe et même si tout le monde ne fait pas du marketing, on arrive quand même à à tirer des ficelles et à se poser des questions, notamment avec Quentin. On a aussi eu certains moments des intervenants extérieurs qui sont venus nous apporter un peu de grain à moudre, et ça faisait vachement de bien. Mais ouais, sinon, tu peux te retrouver des moments un peu tout seul avec ton ordinateur et te dire « bon, bah, je suis arrivée au bout de ma veille, j'ai demandé aux gens sur LinkedIn, mais je ne sais toujours pas, c'est compliqué. » Mais bon, ça arrive.
Peut-être une dernière question avant de conclure. Tu disais qu'il n'y avait pas forcément de voie royale pour aller faire du marketing dans une start-up. Tu disais aussi qu'il fallait aimer les stats, peut-être aussi aimer expérimenter des choses, d'après ce que j'ai compris. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se pose la question de s'orienter vers ça ?
Bah, en fait, je suis peut-être pas très à jour, mais en tout cas, moi, à l'époque, bon, c'était il y a 5 ans, j'étais encore étudiante, hein, c'est pas si vieux que ça, mais à l'époque, personne ne formait aux outils de marketing, en tout cas, je pense en dehors de certaines écoles privées de commerce et de marketing qui pouvaient le faire. Et encore, j'ai jamais vu, même dans ces écoles-là, quelqu'un qui me dit « on m'a filé un budget de 100 euros et j'ai dû le dépenser sur Google Ads ». Ça, j'ai jamais vu des étudiants ouvrir un Google Analytics ou de très loin, quoi. Qu'en fait, faut s'auto-former. Faut faire des filières qui se raccrochent un petit peu à ces métiers-là, que ce soit du marketing, du commerce, de la communication. Et après, faut être assez curieux pour aller se former, ouvrir les logiciels qui sont aujourd'hui les plus utilisés.
Et, c'est à savoir.
Par exemple, moi, je sais que je me suis auto-formée sur Google Ads, donc qui est l'outil qui permet de faire de la publicité via tous les canaux de Google maintenant, donc que ça soit YouTube ou le moteur de recherche, mais aussi tous les réseaux de publicité en ligne. Se former à des outils... en fait, il n'y a pas que si on veut travailler sur les réseaux sociaux, il faut se former aux nouveaux outils de suite publicitaire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'outil de business de Facebook, il est hyper complexe. Et en fait, c'est plus du tout. C'était pas le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était un outil hyper simple où tu leur donnais 1 euro, ils te le reversaient en publicité derrière, et c'était limite, t'avais rien à faire et ça allait. Maintenant, c'est des outils, c'est des grosses machines. Et pour configurer ces outils-là, pour être sûr que son euro, il est bien dépensé, faut quand même travailler un peu dessus, tester des choses. Faut aussi peut-être suivre les formations. Et ça, aujourd'hui, je ne sais pas...
Les formations dispensées par ces réseaux sociaux même.
Ouais. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas si ces formations-là, elles sont dispensées dans les IUT, dans les BTS, dans les écoles et tout. J'ai l'impression qu'on forme quand même encore beaucoup à la théorie du marketing et comment ça fonctionne, justement, ce que je disais, le cerveau d'un consommateur, ce genre de choses. Donc ça, c'est très bien. Ou à monter une marque, à se dire, voilà, comment on marketing une marque super, mais en fait, la plupart des métiers qu'on a en post-bac, c'est pas penser une stratégie marketing. C'est configurer Facebook Manager pour diffuser de la publicité en ligne. Et ça, je sais pas si aujourd'hui c'est fait dans les écoles. J'espère que ça infuse un peu et que c'est mieux fait aujourd'hui qu'avant. Mais sinon, Google, ils ont des super formations en ligne qui sont gratuites. Et il y a plein de boîtes qui en proposent aussi. Enfin, peut-être après, il faut juste s'auto-former. Ces logiciels, ils sont tous gratuits. Il faut les ouvrir, il faut regarder ce qu'il y a dedans, il faut regarder un petit peu comment ça marche. Mais moi, j'ai tout appris sur le tas. On ne m'a jamais appris. J'avais jamais ouvert Google Ads avant d'arriver en agence. Et pareil pour plein d'autres outils. J'ai tout appris sur le tas. Donc, j'espère que demain, les gens ils pourront apprendre dans des écoles avec des formations. Mais si c'est pas le cas et si ça intéresse des gens de faire ce genre de métier, renseignez-vous déjà un petit peu sur ce qui existe et regardez un petit peu par vous-même. Et puis après, on apprend sur le tas. Hein. Faut aller dans les. Enfin, quand on est recruté, on apprend, on prend quelques mois à se former et en fait, ça vient petit à petit aussi. Faites des stages. Je dis ça parce que l'autre jour, j'ai vu une étudiante dans un tout autre cadre qui m'avait dit qu'elle avait un stage non obligatoire et qu'elle ne voulait pas le faire. Mais je lui ai dit, mais fais ton stage, en fait, parce que sur le CV, à la fin, il faut que tu aies fait des trucs. Sinon, en fait, l'école, elle n'apprend pas à faire les... En fait, Moi, j'ai un vrai sujet avec ça. Je suis désolée, ça me tient à cœur. Mais parce que j'ai fait un master de communication. Et pendant tout mon master, on m'a appris à être directeur de la communication d'un grand groupe et d'une grande... voilà, donc on nous expliquait comment on posait des stratégies de communication, comment monter une marque et tout. Mais ça, mais jamais tu fais ça à 25 ans en sortie de master, en fait, ça n'arrive pas. Et en fait, ça arrive qu'à des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans de carrière. Donc c'est important d'en faire quand même parce que ça te permet de structurer ta pensée en com ou en marketing, puisque tu vois l'ensemble du spectre de ce qu'est le travail. Mais en fait, en sortie de master, en général, on te demande de faire des choses et d'appliquer des choses. Et des fois, en fait, on ne sait pas faire. Donc après, on apprend sur le tas. Et c'est un peu comme plein de professions, un peu de nouvelles professions. Là, je vois, on est en train d'enregistrer un podcast, podcasteur, youtubeur. En fait, je ne sais même pas s'il y a des formations, mais en tout cas, il faut apprendre sur le tas aussi, en faisant et en se plantant. Et voilà. Donc, il n'y a pas de voie royale, il n'y a pas de... Enfin, si, il y en a peut-être dans les grandes écoles de commerce, mais moi, je n'en ai pas fait, du coup, je ne sais pas.
Très bien. Donc, apprendre sur le tas, s'auto-former, rester à jour pour toujours rester au mieux de ce métier qui évolue tout le temps.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Margot Belair.
Eh bien, merci.
C'était le podcast Startup Job Story. Merci à toutes et tous pour votre écoute. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Rendez-vous aussi sur www.startupjobstory.com. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire.